Juste peut-être une question, je vais commencer, je ne sais pas si dans le public il y a des questions. Je vais revenir à la question à quoi sert encore le travail social. C'est vrai, c'était un peu notre préoccupation. À partir du moment, où on assiste à une mise en marché des protections sociales, est-ce qu'il faut craindre aussi alors une mise en marché du travail social?
Et je sais pas. Bon, mais j'ai lu avant de venir sur un site qui dépend de je sais pas si vous connaissez, de Sciences Po Telos. Ça vous dit quelque chose? Julien Damon, que vous devez connaître, qui a fait un petit texte. Alors je l'ai lu vite puisque je venais à Lausanne. Refonder le travail social. Et j'ai été, bon, en ce qui me concerne, surprise. Mais bon, encore une fois, moi, je ne suis pas spécialiste. Que dit Julien Damon? Il dit, bon, deux pistes. Il faut simplifier le travail social parce que, bon, ça, c'est pas bon. Et donc, et il faut viser à ce qu'on puisse choisir son travailleur social. Je dis bien choisir son travailleur. C'est pas moi. Hein, c'est, dans une relation contractuelle de client à prestataire. Sur le modèle du TST traitant, TSR référent, tu vois, comme le médecin référent, choisir ce travailleur social dans une relation contractuelle, si on n'est pas dans le marché. Là. Et le deuxième point, c'est dossier social personnalisé. Bon, ça, c'est autre chose.
Bon, on peut imaginer qu'il y a peut-être un espoir, peut-être, dans la réinvention d'un travail social à partir de là. Moi, je ne sais pas comment penser, en fait, le travail social dans cet horizon-là. Non, bah, qui veut peut-être réagir à des questions?
Oui, merci. Je vais essayer de réagir très rapidement à l'ensemble, parce que, effectivement, ce matin, cette extension encore présente du taylorisme, de ce néolibéralisme, nous a beaucoup préoccupés. Et dans la grammaire de Dominique de Penne, on pourrait rajouter un nouveau mot. J'ai eu un entretien avec un neurochirurgien récemment, qui était extrêmement en souffrance, parce qu'au préalable, vous connaissez l'importance de la neurochirurgie dans les opérations, il avait des équipes stables. Voilà, des infirmières, des assistants stables qui étaient les siens qu'il suivait. Et là, depuis la réorganisation hospitalière, depuis les groupements hospitaliers territoriaux, etc., etc., les équipes changent en permanence. Il ne sait pas avec qui il va opérer le matin. Voilà. Et je lui pose la question, je lui dis, mais ça met quand même le patient quelque part en danger. Il m'a dit, c'est ce que je suis allé dire au DGS. Le DGS, c'est le directeur général des services. Voilà. Et il lui a répondu, nous avons un taux de sinistrabilité de 50%, on est dans la moyenne, et tenez-vous bien, on est bien assuré.
Eh bien voilà, mais l'assurance, c'est... Bien sûr.
Donc, c'est quand même quelque chose qui est assez incroyable, des développements de ce néolibéralisme. Et je crois que vraiment, une des pistes, alors, on en parlera peut-être cet après-midi, avec l'influence du non-humain, qui ne se réduit pas au bracelet, mais qui est aussi ce que nous faisons nous-mêmes dans ce qu'on appelle le « quantified self », c'est-à-dire avec tous les bracelets que nous avons, etc., nous n'arrêtons pas de quantifier ce que nous faisons, et nous sommes dans cette soumission volontaire à la quantification, quoi, comme on dise, voilà, parce que nous avons peut-être besoin de ça, et que le chiffre est devenu l'instrument de la raison complètement. Une des façons, une des pistes peut-être que je proposerais, mais j'ai vu que Pars avait déjà creusé le sillon, c'est vraiment de travailler sur de la recherche-action. C'est-à-dire de redonner la parole et de faire en sorte que cette parole-là, cette manière de penser, soit réinterrogée avec des chercheurs. C'est-à-dire que ce n'est pas eux qui ont l'hégémonie, voilà, mais faire des professionnels du social, les savants de leur propre réalité, comme ça a été dit par Boumard dans un excellent travail. Parce que c'est vrai que Roland Gori disait « on a la tête dans le guidon et on ne peut plus penser ». Eh bien, je vais filer la métaphore cycliste pour terminer, en disant que on nous empêche de descendre du vélo pour nous regarder pédaler.
Merci, collègue, de nous représenter la sécurité sociale. Hein. C'est très important. Et d'ailleurs, moi, je me bats dans mon école pour que cette histoire existe et qu'elle ne disparaisse pas. Hein. L'histoire du travail social, de l'action sociale, de la sécurité sociale et du principe majeur de l'équilibre entre l'individu et le collectif et la solidarité. D'abord, c'est très important. C'est du politique, ça. Il faut vraiment y veiller. Moi, je dirais très rapidement que dans le travail social, ce que je vois, c'est avec ces gestions des minima sociaux, justement, par exemple, au RSA, j'ai participé à une commission, je ne vais pas rentrer dans les détails. Il y a une individualisation, bien évidemment, des prises en charge, mais aussi que le travail social se morcelle et qu'il n'y a plus, presque plus, même en France, bientôt, de travail social généraliste et global, où se met en place cette question de l'équilibre entre l'individu et le collectif, politiquement, tu vois. Et que ça, c'est insidieux, c'est avec la complicité des élus de droite et de gauche, du centre, du machin. Tout le monde, personne ne dit rien. Et ça, c'est grave, si vous voulez, parce que c'est des réformes de structure qui isolent les pauvres et qui isolent les travailleurs sociaux. Et là-dessus, en plus, la cerise au gâteau, c'est les marchés. C'est-à-dire que les associations qui s'occupent de bénéficiaires du RSA doivent répondre à des appels d'offres et donc sont encore dans le disant. Ça fait qu'il y a trois couches qui annulent la question de la solidarité. Voilà, c'est clair, c'est structurel. Et là, il y a quelque chose de très important sur lequel, effectivement, tu mets le doigt, tu l'expliques très, très bien. Et voilà, je te remercie infiniment.
Une autre question derrière.
Est-ce que je pourrais, juste avant, lire un petit passage pour répondre à monsieur qui a parlé. Voilà. Un livre en France qui s'appelle L'Hôpital, c'est sur un que sais-je, de Jeanne de Kervas-Douai, qui est un économiste de la santé, qui a commencé sa carrière comme rocardien. Je trouve qu'il l'a fini bien mal, mais bon, il ne l'est plus depuis un certain temps. Il a été ex-directeur général des hôpitaux. Et donc, dans ce livre intitulé L'Hôpital, il dit... L'élaboration de la stratégie d'un hôpital public ressemble à celle des autres entreprises. De nombreux hospitaliers sont convaincus de la spécificité absolue de leur secteur. Il n'en est rien. Même si le mot « marketing » est encore un tabou du fait de sa connotation agressive, on cherche à vendre, c'est bien de cela dont il s'agit à l'hôpital. C'est fou, hein ?
Oui, en tout cas, cette matinée, ça m'a fait penser aussi au fait que tous ces dysfonctionnements font qu'à un moment donné, il y a un prix qui est payé. Il y a un prix qui est payé par les travailleurs sociaux, mais il y a aussi un prix qui est payé sur le terrain par les bénéficiaires. Et je pense qu'il ne faut pas qu'on oublie aussi les bénéficiaires, parce que si le travail social sert à quelque chose, c'est aussi dans un premier temps bénéficiaire. Puis on n'en a pas tellement parlé, il me semble, jusqu'à maintenant, même si ça peut avoir des impacts sur eux. Ça m'a fait penser aussi à... Quel exemple, nous, on a aussi dans le travail social. Il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de personnes qui sont responsables d'équipe, voire directeurs, etc., qui sont aussi des travailleurs sociaux. Et il faut voir de temps en temps comment ils gèrent les gens, les travailleurs sociaux. Là, ça fait aussi un peu souci, même beaucoup. Donc là, il y a aussi énormément de choses à faire. Et là, on a une marge de manœuvre. On ne peut pas juste se cacher derrière la machine. Et puis, ça pose la question aussi de la militance. Quid, justement, de l'engagement des travailleurs sociaux. En tout cas, moi, il me semble qu'en tant que travailleur social, on a un impact à faire au niveau du terrain, mais on ne peut pas se réduire à ça. Je pense qu'on est aussi en première ligne pour pouvoir faire quelque chose à d'autres niveaux. Alors oui, ça prend de l'énergie, mais si personne ne le fait, qui va le faire? Et là, je pense aux mouvements sociaux, aux associations, aux syndicats et aux politiques.
Oui, je vous rejoins complètement. C'est-à-dire que ce que je pense, c'est qu'un travailleur social, finalement, a deux actions. La première, je ne reviens pas dessus, c'est la question de l'éthique, c'est l'accompagnement. Si on oublie ça, il faut changer de métier. Mais on ne peut pas ne pas être politique quand on est travailleur social. Mais ça n'a rien à voir avec la droite et la gauche. Politique au sens du politique, pour faire la différence. Hein, la politique, finalement, c'est une catégorie comme l'économique, le culturel, etc. Puis, le politique, c'est-à-dire cette manière symbolique et imaginaire d'institution du social. Puisque les travailleurs sociaux, on a une particularité. On est les seuls, ça ne veut pas dire que les autres qu'on est mieux que les autres, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Les profs, ils essayent de faire leur boulot, et croyez-moi, j'ai de la famille qui est prof, voilà. Hein, mais ils ne travaillent pas avec les exclus de la société. Ils essayent de faire que, justement, ils n'y soient pas. Encore qu'un prof m'a dit, tu sais, les deux critères d'évaluation d'un prof, c'est est-ce que tu as bouclé ton programme ? C'est pas est-ce qu'ils ont pensé quelque chose, est-ce qu'ils ont compris ? On s'en fout. Et est-ce qu'ils ont pensé, est-ce qu'ils peuvent passer dans l'école, la classe supérieure, ou est-ce qu'ils ont obtenu leur diplôme? Mais est-ce qu'ils ont pensé, l'éducation nationale ne pose pas la question qu'en pensez-vous, par exemple? Ben, surtout pas. D'ailleurs, même dans les centres de formation, j'en prends, hein, pour moi, de moins en moins, on devient un peu révolutionnaire si on commence à vouloir faire penser les étudiants. Et donc, on a une particularité, c'est qu'on s'occupe de ce que le système exclut. Donc, notre action, au-delà du côté éthique et humain, et vous avez raison, c'est notre cœur de métier, comme disait Michel Hottès hier, mais on s'occupe de... C'est-à-dire que notre action est par elle-même politique. Et un jour, j'ai une étudiante qui me dit « Mais Dominique, moi, je suis au fin fond de la Lozère, dans un foyer de vie, je suis en train de faire de la politique avec mes résidents. » Mes résidents, qui m'appartiennent. Bon. Et je lui dis « Ah bon, et qu'est-ce que vous faites ?»« Ah ben là, en ce moment, j'essaye de les faire rentrer dans l'association des bouddhistes du village. » Je fais « Ah bon, c'est intéressant ça. Et pourquoi ?»« Ah ben, ils résistent quand même, ils sont handicapés et tout ça. » Donc, je lui dis « Vous êtes en train de faire de la politique. » Vous êtes en train de faire du politique, qu'est-ce que vous êtes en train d'essayer de faire? Que la personne dite handicapée puisse participer à faire du village, enfin la vie du village. Un travailleur social ne peut pas être sans tête politique, c'est pas possible. Notre action dit quelque chose du système dans lequel on est. Alors après, je rejoins tout ce qui est remarquable, merci à Colette Beck de ramener cette question de la sécurité sociale. Je sais aussi que Michel, parce qu'on en parle beaucoup, on est en train de travailler ensemble avec Martine Frappon et Michel Chauviat sur des choses aussi ensemble. Quoi. Mais ça pose quand même la question à laquelle... Alors je suis un peu obsessionnel, ouais, j'ai trouvé ma névrose depuis hier, ça y est, c'est l'obsession, je suis obsessionnel. Je reviens à ma question politique, quoi. C'est-à-dire comment on peut être... un travailleur social mandaté par l'État, alors que l'État est aussi ce qui fait la division, c'est-à-dire ce qui crée les inégalités, quoi. Et pour l'instant, j'ai pas la réponse. Bon, du moins, j'ai la mienne. On va dire que je suis idéologique, etc., etc. Et puis voilà. Mais ça pose une vraie question. On ne peut pas être un travailleur social apolitique. C'est pas possible.
Oui, alors, j'ai une Michel, question à Colette, tu n'as pas parlé de la branche famille.
À laquelle tu tiens tort?
Non, je n'y tiens pas spécialement, mais c'est un élément d'histoire qui est longtemps parallèle, en citant les lois de 1930, de sauter à 32 pour la loi sur l'allocation familiale, et puis rappeler que ça a été incorporé dans la Sécu, modèle 45, tout en gardant des
une autonomie. Oui.
Ça, je crois que c'est important, parce que c'est une histoire un peu parallèle qui n'a pas le même rythme de transformation qu'est presque plus solide aujourd'hui que n'est le reste, ouais. Pour des raisons qu'il faudrait essayer de comprendre. Et qui appuie pas mal le travail social.
Bien sûr, bien sûr.
C'est une branche qui est encore relativement solide. Donc, c'est pour ça que je voulais rajouter ça. Deuxièmement, pour faire l'articulation avec la question de l'implication des mouvements sociaux, etc., je crois qu'il est intéressant de rappeler aussi que dans le mode de gestion de la sécurité sociale historique, parce que ça s'est rapidement dégradé, d'abord, il y a eu des élections sociales dans les années 40, ce qui a complètement disparu du paysage, mais enfin, ça a impliqué les citoyens. Deuxièmement, dans la gestion encore, par exemple, des caisses, il y a des représentations, il y a des représentants, des bénéficiaires, et même des mouvements familiaux dans les caisses d'allocation familiale. Donc il y a un système de démocratie interne qui est pratiquement devenu formel.
Tout à fait.
Je suis bien d'accord là-dessus, mais qui symbolise une autre voie.
Tout à fait.
Alors, qui est peut-être un élément de fragilité également, parce qu'il n'a pas été consolidé politiquement, donc il devient très fragile, il disparaît pratiquement. C'est une représentation notable, en quelque sorte, notabilisée par ce système, comme la cogestion des complémentaires, d'ailleurs, dont tu parlais. Tout ça se notabilise et donc n'a plus de pertinence politique, mais continue à exister formellement. Alors, est-ce qu'il faut l'investir ou au contraire le liquider? C'est un problème pour l'instant. Qu'est-ce qu'on fait de tout cet encombrement pseudo-démocratique qui a fait le modèle sécurité sociale?
Alors, tu fais là référence à quelque chose... Bon, je n'ai pas pu parler de tout, hein, mais tu fais là référence à quelque chose qui, moi, m'a passionné et qui, pour moi, devient un dada. C'est ce que on a appelé la démocratie sociale, avec trois niveaux. La démocratie politique, bon, est la base mais insuffisante. Il faut démocratie économique et démocratie sociale. Regardez. Qu'est-ce que c'est que la démocratie sociale telle que Larocque l'a pensée? C'est, alors ça c'est important, important. C'est donner, il disait, notre système de sécurité sociale ne sera viable que s'il y a une éducation à la solidarité de toute la population. pour qu'il y ait éducation à la solidarité de toute la population, je fais un deal. Il parlait mieux que ça, mais je fais un deal avec les syndicats. Je leur donne, je me bats, et il s'est battu contre le patronat, etc. Je me bats pour que les syndicats prennent la gestion des caisses à condition qu'ils fassent cette éducation à la solidarité, sans laquelle il n'y aura plus de sécu. À mars 1960, au même moment où Dupérou dit la sécu, elle a perdu ce truc, il écrit un article à La Roque intitulé « Sécurité sociale et esprit public » et il dit « L'éducation à la solidarité n'a pas été faite. Certes, les syndicats disent qu'ils n'ont pas eu le temps, enfin, etc., etc. Je vais en dire deux mots. Et sans cette éducation à la solidarité, si ça continue comme ça, nous irons dans quelques temps à un guichet de sécurité sociale comme l'on va à un guichet de banque chercher retour sur investissement. » Tout. Bon. Alors, la question des syndicats, elle est énorme. Les syndicats n'ont pas rempli le rôle qui leur avait été attribué. Ils ont pris la Sécu comme un poste de pouvoir, qu'ils se sont passés de temps en temps de l'un à l'autre. Ils n'ont absolument pas... C'était le... Et tu te souviens, quand on a invité les Rocs tous les deux au Grasse, tu te souviens? Et que naïvement, j'étais jeune à l'époque, naïvement, je lui dis, selon vous, quel est le grand échec de la Sécu? Est-ce que c'est le trou, le déficit? Il m'a regardé, il était très grand, il m'a regardé avec un peu de condescendance et il m'a dit, madame, le grand échec de la Sécu, c'est la non-implication des syndicats dans la Sécu. Voilà. Donc, c'est... plus que, c'est encore moins que formel, je veux dire. C'est-à-dire que le contenu, la finalité de leur place dans la Sécu est complètement passée à l'as. Non, mais nous qui réfléchissons sur comment s'investir, enfin, etc., c'est... Mais tu sais, moi, j'ai été invitée par beaucoup de syndicats. Et j'ai je ne citerai pas, hein, mais j'ai découvert que dans un syndicat, un responsable de la commission protection sociale, lui aussi n'avait pas lu le conseil de la Sécu, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Et c'était, bon, c'est-à-dire une ignorance crasse. Moi, ça, c'est la chose qui me déstabilise le plus. Moi, je terminerai sur l'éducation à la solidarité. Sans ça, on va dans le mur. Mais moi, je vois avec les étudiants, c'est quoi la Sécu pour vous la première fois? C'est une caisse à remboursement. Bon, j'ai failli faire un infarctus, là maintenant j'y suis habituée. Bon. Et les dernières études du Crédoc en France montrent que la barre des 60% de la population française est contre la solidarité envers les gens qui ne travaillent pas. Bon, c'est tout. Je crois qu'il faut partir de là et voir ce qu'on peut faire, se positionner. Mais moi, je me bats maintenant. Enfin, il y a des trucs quand même, d'autant plus que, et ça c'est positif, j'ai été invitée par des lycées qui avaient travaillé sur des articles, des interviews, enfin, etc. Et pendant 6 mois, avec des profs de philo, d'éco, etc., entre autres à Lyon, mais aussi à Paris. Vous ne pouvez pas imaginer ce que ces jeunes sont sensibles à la question de la solidarité, mais 10 fois plus que nous, je veux dire. Ils ne sont pas encore bétonnés, ils ne sont pas encore... Bon, et ils comprennent, ils ont envie de... Ils sont curieux de l'histoire, etc. Bon.
Merci beaucoup, Colette Beck. Pour rappel...